Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui à la fois la fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire, au 7 octobre, et également le 20e dimanche après la Pentecôte. Donc il y a évidemment une grande richesse de textes liturgiques à travailler, à méditer dans l'esprit de l'Église. Avant de vous parler de cette fête magnifique de Notre-Dame du Saint-Rosaire, je voudrais faire une allusion à une phrase qui me semble importante dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, hein, qu'on trouve au 20e dimanche après la Pentecôte. Il y a un avertissement de Saint Paul qui est donné il y a plus de 2000 ans, qui est tout à fait pour nous. Voilà ce que nous dit Saint Paul. « Ayez soin, mes frères, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi vous ne devenez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Donc Saint Paul utilise cette phrase un peu spéciale, nous conseillant, nous demandant de racheter le temps. Ça veut donc dire que le temps peut se racheter. Le temps est nécessaire au salut. On ne peut pas se sauver sans avoir du temps. N'oublions jamais, mes bien chers frères, que pour sauver notre âme, que pour changer tout simplement de situation spirituelle, pour passer de l'état de péché à l'état de grâce, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps parce que si on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Et par définition, si on est dans l'éternité, eh bien, on est hors du temps. L'éternité, c'est justement l'absence de temps. Et donc, une fois après la mort, il n'y a plus de temps, on est dans l'éternité, donc on ne peut plus modifier notre situation. Si on meurt en état de grâce, donc on peut aller au ciel, jouir de Dieu pendant toute l'éternité, après le passage au purgatoire. Et si on est en enfer, malheureusement, si on meurt en état de péché mortel, c'est l'enfer. Et là, encore une fois, on y est pour toujours. La seule exception, c'est le purgatoire. Le purgatoire est dans le temps, parce qu'on est au purgatoire pour une certaine période de temps. Donc, pour changer de vie, il faut à la fois du temps, mais il faut aussi l'usage de notre liberté et la grâce de Dieu. Donc trois choses sont nécessaires pour nous rapprocher du bon Dieu. Le temps, du temps, l'usage de notre liberté et la grâce de Dieu. Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Actuellement, il nous donne du temps et nous avons la liberté, c'est-à-dire le choix que le bon Dieu nous fait, nous donne, par lequel on peut choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés. Alors la première chose qu'il faut faire, en suivant cette phrase de Saint Paul, me semble-t-il, c'est de remercier le bon Dieu pour le temps. Est-ce que nous pensons à remercier? Est-ce que j'ai déjà remercié Dieu de m'avoir donné le temps de ma conversion? Pensons à tous ces gens qui ne peuvent plus se convertir parce que justement ils ne sont plus dans le temps. Pensez à tous les gens qui sont en enfer, par exemple. Combien en enfer, combien de milliards de personnes peut-être demanderaient quelques secondes pour pouvoir regretter leur péché, faire un acte de contrition parfaite, se confesser, obtenir l'absolution et sortir de l'enfer. Ils n'ont plus ce temps. Nous, le bon Dieu, nous a donné du temps et nous donne actuellement du temps. Pour combien de temps, on ne sait pas. Peut-être que ce soir, je serai mort et vous aussi. Donc la première chose, me semble-t-il, c'est de remercier notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné ce temps pour que je puisse me convertir. Et souvent, je me rends compte que nous sommes très indifférents, nous ne comprenons pas cette grâce, parce que c'en est une, qui considère, qui comporte, cette grâce par laquelle nous avons du temps pour nous convertir. Donc, remercions Dieu, prenons le temps de remercier le bon Dieu du temps qu'il me donne pour pouvoir me confesser, pour pouvoir communier, pour pouvoir me rapprocher de Dieu, pour sortir des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Remercions Dieu pour cela. Et puis peut-être nous devons faire un examen de conscience sur ce temps. Est-ce que j'ai bien utilisé le temps que le bon Dieu m'a donné ou est-ce qu'au contraire, ai-je gaspillé ce temps que le bon Dieu m'a donné? Ce n'est pas un moment du jugement général, du jugement particulier, jugement particulier au moment de la mort, ou du jugement général à la fin des temps, que nous aurons la possibilité de penser ces choses-là. Il nous faut le faire maintenant. Est-ce que j'ai gaspillé le temps que le bon Dieu m'avait imparti? Est-ce que j'ai gaspillé ma liberté? Est-ce que j'ai gaspillé les grâces que le bon Dieu m'avait prévues, m'avait préparées pour moi? Est-ce que j'ai ouvert la porte de mon âme pour recevoir ces grâces? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai fermé la porte de mon âme parce que j'ai perdu le temps, j'ai gaspillé le temps que le bon Dieu m'avait imparti? Et au lieu d'utiliser ce temps pour faire le bien, j'ai utilisé le temps pour m'éloigner, ce temps pour m'éloigner du bon Dieu. Donc d'abord, remercier le bon Dieu pour le temps qu'il me donne actuellement. Oh mon Dieu, vous me donnez le temps de me convertir. Je devrais être peut-être en enfer à cause de tous mes péchés passés. Je n'y suis pas. Combien de personnes sont en enfer qui ont commis peut-être moins de péchés que ceux que moi-même j'ai commis? Eux, ils sont en enfer. Moi, je n'y suis pas. Pourquoi? Parce que chaque âme est différente et que Dieu utilise davantage sa justice pour certaines personnes et davantage sa miséricorde pour d'autres. Il est tenu, parce qu'il est Dieu, d'utiliser toujours sa justice, d'être parfaitement juste. Dieu est parfaitement juste, même quand il utilise sa miséricorde. Mais avec certaines personnes, il utilise plus sa miséricorde qu'avec que sa justice. Et c'est peut-être le cas pour chacun d'entre nous, bien cher frère. Vous qui m'écoutez sur Internet, pour moi-même, c'est aussi le cas. Le bon Dieu a exercé davantage sa miséricorde avec moi que sa justice. C'est absolument, absolument évident. C'est pour cela que je suis assis à mon bureau en train de vous donner ce sermon. Ou en train de prêcher pendant la messe du dimanche. Donc pensons à remercier, pensons à demander pardon si nous avons gaspillé le temps dans le passé. Si j'ai gaspillé le temps que le bon Dieu m'a donné, alors il faut maintenant réparer, racheter ce temps. C'est le terme utilisé par saint Paul. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Donc, qui dit gaspillage de temps, dit réparation nécessaire par un rachat de ce temps. Le monde nous dit, jamais souffrir, jamais mourir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, nous demande de souffrir pour mieux mourir. Rachetant le temps, en acceptant de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ, par la croix, par l'imitation de sa croix, l'imitation de son chemin de croix, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et si nous faisons attention, mes bien chers frères, à racheter ce temps que nous avons perdu et gaspillé dans le passé, alors nous pourrons nous rapprocher du bon Dieu. Et c'est ce que nous demande la Sainte Église par cette magnifique fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Fête magnifique. Vous savez que cette fête a été établie par la Sainte Église après la victoire de Lépante, en 1571, à Lépante. Je crois que c'est dans les Dardanelles. Et à Lépante, donc, l'armée catholique, menée par l'Autriche et l'Espagne, les Français brillaient par leur absence dans cette armée, malheureusement, ou presque, eh bien, en 1571, donc, l'islam menaçait de tout envahir toute l'Europe, comme aujourd'hui. Et c'est le pape Saint-Pie V qui a demandé à tous les catholiques de prier le rosaire pour obtenir la victoire de l'armée catholique. Et le bon Dieu a fait un miracle, parce que c'est un miracle. Les vents ont tourné et les navires des musulmans, les trirèmes des musulmans se sont entrechoqués les unes les autres, ont toutes été détruites et l'armée musulmane a été pratiquement totalement détruite. C'était la victoire de l'armée catholique. Et c'est Saint-Pie V qui avait demandé ce qu'on prie le rosaire. Il était à Rome, en train de s'occuper avec son comptable de la comptabilité des biens de l'Église. Et d'un seul coup, illuminé par une lumière du ciel, il arrêtait de parler à son comptable. Il a dit, ce n'est plus le moment de s'occuper maintenant de la comptabilité des biens de l'Église. Allons à la chapelle chanter un Te Deum. Le bon Dieu vient de donner la victoire à nos armées. Il savait, par une lumière spéciale du bon Dieu, il était déjà au courant de la victoire de Lépante. Plus tard, en 1716, en Hongrie, une autre victoire, un signe sur les musulmans. Il est évident, mes bien chers frères, que nous sommes à peu près dans la même situation aujourd'hui avec l'islam qui envahit toute l'Europe, surtout notre pauvre pays de France. Alors nous devons prier d'une façon toute particulière Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire pour justement, avec son aide, racheter ce temps Surtout si nous avons gaspillé le temps dans le passé. Si j'ai été un mauvais soldat dans le passé, si j'ai refusé de porter les armes offensives et les armes défensives que je devais porter, alors aujourd'hui il me faut rattraper ce temps avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Alors méditons un petit peu, mes bien chers frères, sur le pourquoi de ce rosaire. Vous savez que c'est Saint Dominique qui a prêché le rosaire. Il a ensuite été développé par un de ses disciples, Alain de la Roche. Mais c'est la Très Sainte Vierge Marie qui a donné le rosaire à Saint Dominique, tout proche d'ici, tout proche de l'endroit où je suis. À l'entrée d'Albi, il y a une église, à la droite du Tarn. En vieux français, ça se dit la Drèche. À Notre-Dame de la Drèche, une belle église en briques, comme se font beaucoup les églises, sont construites les églises ici dans le Tarn. Eh bien, à cet endroit-là, à Notre-Dame de la Drèche, à l'entrée d'Albi, donc sur la route de Rodez, eh bien, il y a Notre-Dame de la Drèche, l'endroit où Saint Dominique a reçu le rosaire des mains de la Très Sainte Vierge Marie. Et il nous faut méditer un petit peu ce rosaire qui est tellement important pour nous, parce que le rosaire, c'est l'arme du soldat de notre Seigneur, l'arme du soldat de Notre-Dame. Si on dit que Sainte Jeanne d'Arc était un capitaine d'église, un capitaine de guerre, que pouvons-nous dire de notre Sainte Vierge Marie? Elle est un général de guerre, puisqu'elle a le pied sur la tête du démon pour l'écraser. Elle écrasera la tête du démon. Et donc la Très Sainte Vierge Marie nous donne ce rosaire. C'est à nous d'utiliser cette arme. À nous faire comme les soldats modernes qui vont refuser avec dédain l'arme donnée par leur supérieur. Si la Très Sainte Vierge Marie, si le bon Dieu nous a donné une arme pour lutter contre le démon, il nous faut utiliser cette arme. Et cette arme, c'est le rosaire. Est-ce que je prie mon chapelet tous les jours? Est-ce que tous les jours dans ma famille, je m'organise pour que mes enfants et moi, nous puissions prier le chapelet ensemble? Comme ce chapelet est important. On dit que c'est le bréviaire du laïc. Les prêtres, quand ils disent leur bréviaire, au cours de la semaine, récitent les 150 psaumes de David. L'intégralité des psaumes, du psautier de David. Dans le rosaire, il y a 150 Je vous salue Marie. Donc, on dit que c'est l'équivalent du bréviaire. C'est comme le bréviaire pour les laïcs, donc on l'appelle le bréviaire des laïcs. On l'appelle aussi la mitraillette à 150 coups. Alors, protégeons notre âme par le rosaire. Et en méditant un petit peu ça, nous verrons que les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux qui se succèdent correspondent tout à fait à l'élévation de l'âme vers le bon Dieu. On commence par la voie purgative, puis on monte en voie illuminative et enfin en voie unitive. La voie purgative, la voie de purification correspond au mystère joyeux, la voie illuminative au mystère douloureux, la voie unitive au mystique, au mystère glorieux. Et ce rosaire est donné à toute l'Église, à l'Église militante d'ici-bas. Nous sommes les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, les soldats de Notre-Dame ici dans l'Église. L'Église vivante d'ici-bas, c'est l'Église militante. Que miles en latin veut dire le soldat. Et puis après, il y aura le purgatoire, l'Église souffrante, avant d'arriver au ciel, l'Église triomphante. Donc méditons un petit peu, mes bien chers frères, je voudrais insister là-dessus, sur si vous voulez, les vertus que la Très Sainte Vierge Marie voudrait trouver dans ses soldats. Elle nous donne le rosaire comme une arme, mais elle veut trouver dans ses soldats un certain nombre de vertus pour qu'ils puissent utiliser correctement l'arme qui leur est donnée. On nous donne une mitraillette à 150 coups, encore faut-il l'utiliser correctement, encore faut-il l'utiliser quand il faut et comme il faut. Alors le bon Dieu, par la Très Sainte Vierge Marie, exige de nous, exige de ses soldats, des soldats de sa Sainte Mère, un certain nombre de vertus. Par le premier mystère joyeux, l'Annonciation. L'Annonciation, c'est quoi? C'est le mystère de l'Incarnation. L'ange Gabriel qui vient demander à la Très Sainte Vierge Marie au 25 mars de devenir la mère du Sauveur. Et c'est l'humilité de la Très Sainte Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur. Donc par le premier mystère joyeux, on demande la vertu d'humilité. Donc la première vertu que le bon Dieu veut voir dans les âmes de ses soldats et des soldats de sa mère, c'est la vertu d'humilité. Il nous faut, nous aussi, tomber à genoux devant Jésus incarné. Quand la Très Sainte Vierge Marie a donné son fiat, a dit qu'il en soit fait en moi selon votre parole, à cet instant précis, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, sans cesser d'être Dieu. La deuxième personne de la Sainte Trinité devient homme. Une personne, deux natures. Deuxième personne de la Sainte Trinité, nature humaine, nature divine. Nature humaine, et à cause de cette nature humaine, il va pouvoir mourir sur la croix pour nous. Nature divine, par sa mort, il peut aussi nous sauver parce qu'il est Dieu. Et qu'en tant que Dieu, il peut effacer nos péchés. Puis, en méditant le rosaire, on continuera avec le mystère de la visitation. La visitation, c'est quoi? Quelle est la vertu que le bon Dieu nous demande d'obtenir par la méditation sur le mystère de la visitation? Notre-Dame, dès qu'elle a su qu'elle était devenue la mère de bon Dieu, elle demande la permission à son mari, Saint-Joseph, sans lui expliquer la raison d'ailleurs. Elle va voir sa cousine, Sainte-Élisabeth. Et Sainte-Élisabeth va reprendre les paroles du « Je vous salue, Marie ». Alors j'avais dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Sainte Élisabeth va rajouter « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Et là, c'est la vertu de charité. Donc après l'humilité, la deuxième vertu qui forme en quelque sorte la panoplie du soldat de Notre-Dame, c'est la vertu de charité. Puis, troisième mystère, la vertu de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le froid, dans la nudité de Bethléem, de la grotte de Bethléem. Et là, on demande l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté qui consiste à être détaché des biens de ce monde. Donc, première couche de protection, si vous voulez, pour le soldat de Notre-Dame, l'humilité. Deuxième couche, pour ce même soldat, la charité. Troisième couche, l'esprit, la coupure avec l'esprit du monde. L'esprit de pauvreté, bienheureux les pauvres en esprit. Donc c'est l'arrivée des rois mages, c'est l'arrivée des bergers qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons, nous aussi, d'être pauvres des richesses du monde pour devenir riches des richesses du ciel. Puis le quatrième mystère joyeux, la présentation au temple. Très Sainte Vierge Marie qui arrive toute heureuse pour présenter son fils au temple. Au 2 février. Et là, un vieillard est là, il attend le bon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses bras le Sauveur du monde. Et quand il voit cet enfant qui arrive porté par sa mère, le Saint-Esprit lui dit, c'est lui, c'est l'enfant. Alors il va prendre l'enfant et il va donner ce coup de massue littéralement à la Très Sainte Vierge Marie. Ce coup de massue spirituel. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Et vous, Vierge Marie, vous, Très Sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Là, qu'est-ce qu'on demande? On demande la grâce de l'obéissance et de la pureté. Obéissance et pureté, les deux choses vont ensemble. La pureté sans obéissance, ça vaut rien. L'obéissance sans pureté, ça vaut rien non plus. Obéir, devenir obéissant. La Très Sainte Vierge Marie qui obéit à la loi. Notre Seigneur Jésus-Christ qui obéit à son Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et l'obéissance va entraîner cette vertu de chasteté qui est la vertu de force, si vous voulez. Castitas en latin, ça vient du latin, l'étymologie, c'est castra. Le castrorum, c'est le camp militaire, la vertu de force. Donc, quand on suit la Très Sainte Vierge Marie, elle nous donne aussi cette vertu d'obéissance et cette vertu de pauvreté. Et enfin, un dernier mystère joyeux. La perte de notre Seigneur Jésus-Christ et son recouvrement à Jérusalem pour nous expliquer, nous faire comprendre qu'il nous faut accepter la volonté du bon Dieu en toutes choses, surtout quand on ne la comprend pas. C'est facile, mes bien chers frères, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand on comprend parfaitement ce qu'il nous demande. Mais souvent, le bon Dieu nous demande de le suivre même quand on ne comprend pas. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, par toutes ces vertus que je vais avoir par la récitation, que je vais obtenir par la récitation du chapelet, l'humilité, la charité, l'esprit de pauvreté, l'obéissance, la pureté, l'acceptation de la volonté du bon Dieu, alors à ce moment-là, je vais devenir suffisamment fort pour porter ma croix. Et c'est les mystères douloureux. Les mystères douloureux. On va suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec l'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre croix. Parce que ces vertus qu'on appelle des vertus passives et qui sont tellement méprisées par le monde moderne sont les vertus qui vont nous rapprocher de la croix. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Le bon Dieu ne nous donne pas toutes ces belles vertus passives pour nous supprimer la croix. Au contraire, on obtient ces vertus par la méditation des mystères joyeux afin de nous rapprocher de la croix par la méditation des mystères douloureux. On se met au pied de la croix, contemple la croix Et on considérera que nos petites misères sont quand même pas grand-chose à côté des misères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, mes misères, je les ai un peu méritées, alors que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas mérité de prendre partie, part à nos misères. Pourtant, il l'a fait. Alors, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, en demandant la contrition de mes péchés, en demandant la mortification des sens, la mortification de notre intelligence, en demandant l'esprit de sacrifice, la force pour porter sa croix, à ce moment-là, nous pourrons participer à sa résurrection le jour de Pâques, et ce seront les mystères glorieux. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption de la Très Sainte Vierge Marie et le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Alors là, nous obtiendrons la foi, l'espérance qui nous mène vers le ciel, qui nous oblige à regarder constamment vers le ciel, alors que nous voudrions être englués dans la boue du monde moderne. Gardons-nous, bien sûr, nos deux pieds ici-bas sur la terre, on est obligé, mais notre tête au ciel, mes bien chers frères. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie, comme les soldats de Lépante, humainement parlant, ils n'avaient aucune chance. Mais à la tête de la galère qui portait le chef des armées catholiques, le chef des armées catholiques avait voulu qu'il y ait dans sa cabine une image de Notre-Dame de Guadeloupe qui venait d'apparaître quelques années auparavant, en 1531, à Juan Diego, au Mexique. Et c'est Notre-Dame de Guadeloupe qui a permis la victoire de Lépante. Donc il y a un lien très net entre Notre-Dame de Guadeloupe et Notre-Dame du Saint-Rosaire. De toute façon, c'est la même Vierge, la même Très Sainte Vierge Marie. Ayons, mes bien chers frères, donnez à vos enfants cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, même si nous ne la comprenons pas, même si nous avons bien du mal. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut obtenir, surtout pendant ce mois du rosaire. Pendant ce mois du rosaire, priez votre chapelet tous les jours. Faites tout ce que vous pouvez aussi pour le prier en famille, que les enfants sachent s'incliner, s'agenouiller avec leurs parents autour de la statue de la Très Sainte Vierge Marie tous les soirs. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui reste ensemble. Vous voulez sauver votre famille, vous voulez garder vos enfants dans la foi, priez le rosaire tous les jours. Priez au moins le chapelet. Et pour les personnes âgées, pour ceux qui ont du temps, pour les malades, alors priez le rosaire tous les jours. Et priez pour ceux qui ne veulent pas prier. Et priez pour ceux qui prétendent ne pas avoir le temps de prier. Priez pour les décourager. Priez que pour ceux qui ne persévéreront peut-être pas et qui ont besoin de ces prières pour pouvoir persévérer. Parce que le bon Dieu attend vos prières pour pouvoir donner certaines grâces conditionnelles à certaines personnes. Et ces grâces seront données par Dieu à certaines personnes que sinon prie pour elles. Alors mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous donner cette force, cette humilité, cette charité, ce dégoût de l'esprit du monde pour nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, rapprocher de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, se mettre avec la Très Sainte Vierge Marie au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour un jour le suivre dans la résurrection et l'ascension au ciel de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.